13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et l'actualité cette semaine, c'est donc cet incroyable rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault qui a débarqué en jet privé lundi à la surprise générale à Beyrouth. Nous rejoindrons l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Feldman, au Liban. Il nous dira ce que les Libanais de cette cavale rocambolesque disent, surtout quand ils veulent bien lui parler. Nous reviendrons aussi longuement dans Tout Terrain sur l'onde de choc de l'affaire Masneff. Tout est parti d'un livre, Le consentement, qu'a lu Nicolas Carreau, jusqu'à l'ouverture hier d'une enquête pour viol sur mineur de 15 ans. Salomé Legrand, du service police-justice, nous dira ce qu'il faut attendre de cette procédure. Et avec Ève Roger, nous verrons ce que cette affaire dit de notre société. Le coup d'envoi demain du Dakar édition 2020, une course déjà très controversée, nous expliquera Axel May, alors qu'elle va se dérouler dans le désert saoudien pour la première fois. Et puis nous mettrons le cap sur le sud de la France avec Diane Chinouda, pour découvrir les coulisses d'une formidable exposition au Musée d'art de Toulon. Elle met à l'honneur les paysages qui ont inspiré Picasso sur la côte. Voilà pour le programme de cette première de l'année 2020. L'occasion pour moi et pour toute l'équipe de Tout Terrain de vous souhaiter le meilleur et de vous remercier pour votre fidélité. Tout Terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et c'est donc un coup de théâtre qui a marqué l'actualité de la semaine. En pleine trêve des confiseurs, à la veille du réveillon du nouvel an, lundi soir, la nouvelle tombe. Carlos Ghosn assigné à résidence depuis des mois au Japon, dans l'attente de son procès et depuis quelques heures à Beyrouth.
Mais tout d'abord, on vient de l'apprendre. Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, se trouve ce soir à Beyrouth, au Liban, en violation de son assignation en résidence à Tokyo. L'entourage de Carlos Ghosn confie à Europe 1 qu'il ne souhaite pas se soustraire à la justice, mais qu'il estime que ses chances d'avoir un procès équitable au Japon étaient quasi nulles. Pour l'instant, lui-même ne souhaite pas s'exprimer avant les autorités japonaises. C'est ce que nous confirment ses proches, joints par Europe 1 dans la soirée.
Et nous prenons la direction du Liban. Bonjour Nicolas Feldman.
Bonjour Fabienne.
Cela fait maintenant 5 jours que vous êtes à Beyrouth, où Carlos Ghosn est donc arrivé lundi. Déjà, juste un détail, au Liban, on ne dit pas Carlos Ghosn, mais Rosen, je crois.
Oui, c'est ça Fabienne, hein. On dit même Rosen, puisque le GH se prononce ici R. Et d'ailleurs, pour la petite traduction, Rosen, ça veut dire en arabe la branche.
Bien, voilà qui est planté, c'est le cas de le dire, comme décor. On va revenir tout de suite sur cette folle soirée de lundi, quand l'info a commencé à fuiter. Vous avez été correspondant au Liban pendant plusieurs années, vous êtes rentré depuis quelques mois à Paris. Mais vous me l'avez dit, c'est justement par des médias libanais que vous avez eu les premières alertes sur cet incroyable rebondissement. Racontez-nous.
Eh bien en fait, je me trouve lundi soir à la rédaction et je reçois sur mon téléphone une alerte du quotidien francophone L'Orient Le Jour qui annonce que Carlos Ghosn est arrivé au Liban. Alors L'Orient Le Jour, c'est un journal quand même très sérieux ici, hein, donc j'appelle tout de suite un de ses amis et lui me dit qu'en effet c'est une rumeur qui circule à Beyrouth, mais ce n'est qu'encore qu'une rumeur. Et donc dans la rédaction d'Europe 1, comme dans toutes les rédactions, on a un rédacteur en chef le soir. Là c'était en l'occurrence Isabelle Poirodo et tout de suite c'est elle qui va lancer le côté français de Carlos Ghosn et c'est son entourage très proche qui va nous confirmer cette information dans la soirée.
Alors donc j'imagine la stupéfaction quand vous avez fait remonter l'info, d'autant que tout le monde a en mémoire, et on en a parlé ici dans Tout Terrain il y a quelques semaines, de l'affaire Dupont de Ligonnès et de ses sources qui se sont auto-alimentées. Et vu le contrôle judiciaire auquel est soumis Carlos Ghosn, on imagine que c'était impossible a priori pour lui de quitter le Japon. Le Liban, ça paraissait pourtant crédible parce que vous allez nous le rappeler, l'ancien patron de Renault, il y a encore beaucoup d'attaches, sa femme aussi d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Carlos Ghosn qui est né au Brésil mais qui est arrivé au Liban, il avait 6 ans. Il est allé au collège des Jésuites notamment. Il a fait ses classes aussi chez les scouts. Et il est resté à Beyrouth jusqu'à 17 ans avant de démarrer ses études, puis de partir faire sa carrière en France. Mais en fait, il a jamais vraiment coupé les ponts avec ce Liban auquel il est attaché. Il y est toujours revenu régulièrement, que ce soit pour voir ses amis, pour jouer au bridge, et même pour quelques-unes de ses petites affaires. Il est au conseil d'administration d'une des banques du pays. Il a investi dans des projets immobiliers, a aussi un vignoble à Ixir, c'est à une soixantaine de kilomètres au nord de Beyrouth. D'ailleurs, je m'y suis rendu hier et c'est en fait un enfant de la diaspora et tous ces liens, les Libanais ici en sont très fiers.
Alors, l'information, donc, on l'a dit, elle est confirmée lundi soir, dès le lendemain, le 31 décembre, vous êtes dans l'avion pour Beyrouth et le 1er janvier, on entend votre premier reportage aux abords de la maison de Carlos Ghosn.
C'est la maison rose. Elle est là, elle est à 200 mètres d'ici.
Et devant cette villa rose, des agents de sécurité, des policiers, des journalistes, mais pas de traces de Carlos Ghosn. Maya habite juste en face.
Ils sont pas là, je crois pas qu'ils soient là. Parce que la maison est éteinte, on a essayé de regarder, on a vu qu'il y avait pas de lumière. Et puis bon, ce qui est important, c'est qu'il dorme, qu'il aille voir un avocat, qu'il ait un procès équitable, normal, juste. On est content pour lui de s'être sauvé de cette injustice, de cet état de folie.
Oui, mais comment Carlos Ghosn a-t-il réussi à fuir le Japon? Ici aussi, cette question est sur toutes les lèvres. Zaina croisait souvent l'ex-homme d'affaires dans le quartier avant son arrestation.
On était surpris de savoir qu'il est là au Liban. C'est comme un film de James Bond. Comment il est sorti du Japon? Peut-être il est dans les montagnes, à la neige, qui sait? Il est le bienvenu chez lui, dans son pays. Mais comment ça s'est passé? Personne ne le sait.
Voilà, là on est effectivement dans les premières heures, on sait encore très peu de choses à ce moment-là sur cette évasion cavale rocambolesque de Carlos Ghosn. Donc vous êtes devant la maison, c'est quoi précisément cette maison? Elle est à qui? Et l'ambiance autour, on a déjà vu beaucoup de sécurité.
Ouais, cette maison, elle se trouve dans le quartier d'Ashrafieh, alors c'est un quartier huppé de la capitale. C'est une villa que Carlos Ghosn a achetée en 2016 et qu'il a fait rénover, c'est là qu'il s'arrêtait quand il passait au Liban. Alors vous imaginez bien, depuis son arrivée, tout ce qui se passe autour de cette maison est scrutée, décortiquée, analysée, le moindre volet qui s'ouvre, une lumière qui s'allume. Et puis, devant cette maison, on trouve aussi beaucoup de journalistes, et notamment des Japonais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a vu cette semaine dans la presse libanaise un article assez amusant qui a choisi de donner la parole aux voisins qui ne supportent tout simplement plus la présence des journalistes. Mais en tout cas, pour le côté plus sérieux, peu de chance pour le moment que Carlos Ghosn se trouve à l'intérieur de cette maison.
Alors, on sent en tout cas dans ce premier reportage que les Libanais n'en reviennent pas que Carlos Ghosn soit rentré entre guillemets au pays. Est-ce que ses proches vous ont parlé facilement, même en off?
Alors, les proches avec qui je suis en contact, oui, ils parlent assez facilement, mais plus de l'homme, de son passé, du fait qu'il soit content que Carlos Ghosn soit rentré au Liban, que ce soit la fin de ce qu'ils appellent une injustice, qu'il est prêt à préparer sa défense. Mais pour ce qui est de ce qu'il se passe en ce moment, de là où il est, c'est compliqué à savoir. En fait, j'ai surtout l'impression que c'est un cercle très fermé qui a accès à ces informations. Et tant que lui-même n'aura pas décidé de s'afficher publiquement, tout le monde semble vouloir autour de lui rester très discret.
On sait quoi précisément aujourd'hui de cette cavale rocambolesque?
Alors d'après les médias japonais et les images de vidéosurveillance placées dans sa maison de Tokyo, on sait que Carlos Ghosn a quitté seul sa résidence japonaise. Il a ensuite embarqué à bord d'un jet privé d'Osaka pour la Turquie, puis ensuite a pris un autre avion pour arriver à Beyrouth. C'était lundi matin, très tôt. Et ensuite, il est entré sur le territoire libanais légalement. C'est ce que rappellent les autorités libanaises ici.
Alors, on est au Liban, vous avez couvert d'ailleurs ces dernières semaines souvent, Nicolas, les manifestations qu'a connues le pays. Vous avez sondé aussi les Libanais et on va voir que le sentiment est partagé sur ce retour de Carlos Ghosn au Liban.
D'un côté, les fidèles parmi les fidèles, ceux qui l'ont connu, côtoyé, toujours soutenu, persuadé d'un complot venu du Japon contre un homme d'affaires trop gênant pour Nissan. Cette théorie, on la retrouve par exemple autour de ces tables de bridge à Beyrouth où Carlos Ghosn a toujours un siège quand il passe au pays. Pierre le croise depuis une vingtaine d'années.
Sa mise en examen et tout le reste, c'est un système où leur présomption, c'est qu'il est coupable. Donc nous avons attendu jusqu'à maintenant impatiemment quand est-ce que notre Carlos allait rentrer dans le pays. Tout le monde est content maintenant.
Ah oui, mais voilà, depuis deux mois, le Liban est secoué par une contestation inédite. Corruption, clientélisme, c'est tout le système hérité de la guerre civile, toute une classe politique qui est remise en cause. Et sur cette place des martyrs où se retrouvent les manifestants comme Alexandre, la justice doit être la même pour tous.
Je trouve que c'est honteux qu'on reçoive un repris de justice, parce que pour l'instant c'est quand même un repris de justice, qui s'est échappé. Très triste pour le Liban, pour l'image du pays. Parce que quand même, c'était un pays pour lequel tellement de personnes de qualité œuvrent.
Et chaque camp pourra se faire son propre avis dès mercredi prochain, puisque Carlos Ghosn doit prendre la parole devant les médias pour la première fois depuis son arrivée ici.
On entend donc ces réactions contrastées. Quelle est celle qui domine le plus dans le pays finalement?
Eh ben, faut pas oublier qu'il y a aussi une majorité silencieuse, celle tout simplement qui ne connaît pas Carlos Ghosn. Je pense à des villes comme Tripoli, à Tyr, à Baalbek. Le contexte économique est en ce moment très difficile et donc pour ces gens-là, ils ont bien d'autres préoccupations.
Et puis on n'a pas beaucoup entendu la classe politique libanaise.
Ouais, les politiciens libanais qui ont l'habitude un peu de donner leur avis sur tout, tout le temps, et qui là sont étonnamment silencieux. Ceux que j'ai sondés refusent de parler au micro. Et puis il y a cette anecdote, hein, plusieurs médias libanais ont rapporté que Carlos Ghosn avait été reçu à son arrivée au Liban par Michel Aoun, le président de la République, ce que le palais présidentiel a démenti. Mais voilà, cela montre un peu l'embarras qui règne ici. Mais quoi qu'il en soit, Carlos Ghosn ne risque rien ici, puisque aucune poursuite judiciaire n'est lancée à son encontre au Liban, et le Liban n'extrate pas en plus ses concitoyens. Et puis ben maintenant c'est un peu Carlos Ghosn seul face à lui-même avec cette conférence de presse très attendue. Elle doit se tenir mercredi prochain.
Merci beaucoup Nicolas Feldman, et on vous retrouvera bien sûr tout au long de nos éditions du week-end pour suivre l'évolution de cette histoire qu'on peut qualifier d'abracadabrantesque. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 nous a rejoint en studio. Bonjour Aurélien.
Bonjour Fabienne.
On a bien compris Aurélien que la première apparition publique de Carlos Ghosn, normalement, c'est donc pour mercredi pour cette conférence de presse à Beyrouth. J'imagine qu'au service économie, vous avez sollicité Carlos Ghosn pour qu'il parle avant. Comment s'organise justement sa communication en fait avec les médias?
Alors, depuis l'arrestation de Carlos Ghosn et surtout depuis son assignation à résidence à Tokyo, c'est l'agence Image 7 qui gère toutes ces demandes d'interview. Ce n'est plus Renault comme on le faisait nous auparavant. Ça a changé, que ce soit pour lui ou pour ses proches, hein, sa femme Carole par exemple. Donc tout cela est très verrouillé, très cadré.
Sachant qu'Image 7, c'est la grande agence de communication qui
pour ce type gère de grandes personnalités. C'est assez classique, effectivement. Donc voilà, pour l'instant, on reçoit de temps en temps un communiqué, souvent très court, quelques lignes de prise de position, prise de parole éventuelle de Carlos Ghosn. Il y en a eu deux hein, cette semaine. Donc voilà, c'est très court, laconique, mais ça permet de comprendre un petit peu l'état d'esprit. Là, on a bien compris qu'on était dans une phase plus offensive. Et tout cela est très cadré parce que Carlos Ghosn a bien compris, après ses premières interviews données depuis la prison de Kosuge l'an dernier, que ça n'avait pas plu aux autorités japonaises. Il avait également annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse en avril dernier pour se défendre, pour donner sa version. Résultat, il avait été incarcéré 3 jours plus tard, donc... Pour ne pas se compliquer les choses encore un peu plus, les prises de parole ont été extrêmement rares. Et là, on l'a bien compris, hein, aucun membre vraiment très proche ne prendra la parole dans les médias avant cette conférence de presse prévue mercredi. Beaucoup de journalistes veulent y participer, évidemment. Ils seront choisis, hein, ce sera là aussi très encadré. Et ici, à Europe 1, bah, on a juste eu la garantie d'avoir une place réservée sans avoir beaucoup plus de détails pour l'instant.
Du côté de Renault, puisque c'est quand même l'ex-patron de Renault, Carlos Ghosn, on dit quoi de cette cavale?
Alors pas grand chose, hein. On les a évidemment sollicités, mais désormais l'idée chez Renault c'est clairement de tourner la page Ghosn. C'est désormais Jean-Dominique Senard qui est aux manettes, Thierry Bolloré nommé par Ghosn est parti, côté Nissan aussi deux nouvelles têtes sont arrivées, et puis là sur cette fuite évidemment, bon, bah, on nous dit qu'on n'était pas au courant, que ça n'a pas d'incidence directe désormais chez Renault. En revanche, chez les syndicats, malgré tout, la CGT, Renault notamment, on sent qu'il y a encore un petit peu de rancœur envers Ghosn. Et ils ont publié très vite un communiqué pour dire qu'ils espéraient que la lumière soit faite sur les complicités qui ont permis cette fuite.
Alors, du côté du gouvernement français, quelle réaction quand vous avez sollicité justement les ministres?
Alors, du côté de Bercy, l'une des premières à réagir, ça a été Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie. Elle s'est dit très surprise par l'information, tout en rappelant que s'il n'était pas au-dessus des lois, Carlos Ghosn, comme n'importe quel ressortissant français, pourrait bénéficier de l'assistance consulaire ou qu'il ne serait pas extradé hein, s'il mettait les pieds
ça,
en France.
Ça, c'est la règle de droit, en fait.
Pour
hein, tout simplement,
voilà.
Pour tout le monde.
Ghosn, hein. Ou pas, c'était vraiment ce simple rappel. Et comme depuis le début de l'affaire, bon, on a bien vu que côté gouvernement, c'était un peu service minimum hein, pour défendre Carlos Ghosn. Bruno Le Maire a rappelé que ce n'était pas une affaire française, donc voilà, pour dire qu'il n'avait pas forcément à intervenir sur cet épisode-là. Et puis on le sait, hein, les relations Ghosn-Macron n'ont jamais été idylliques. Carole Ghosn a demandé plusieurs fois à
donc
voir le président.
Donc la femme de Carlos Ghosn.
Voilà, elle a demandé à voir le président pour essayer d'évoquer la situation de son mari. Ses requêtes sont restées sans réponse.
Et on rappelle aussi qu'en France, Carlos Ghosn pourrait aussi avoir des comptes à rendre à la justice car il est visé par une enquête du parquet de Nanterre qui s'intéresse aux conditions de financement de 2 soirées organisées au château de Versailles.
Europe 1.
À suivre, l'onde de choc de l'affaire Masneff depuis la sortie d'un livre, Le Consentement, écrit par Vanessa Springora, qui raconte sa relation à 14 ans avec l'écrivain qui avait alors la cinquantaine. Onde de choc, car depuis hier, une enquête pour viol sur mineur de 15 ans a été ouverte par le parquet de Paris. On en parle avec Nicolas Caro, Ève Roger et Salomé Legrand.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Jusqu'à 14h, c'est tout terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Nous sommes avec Fabienne Lemoyle.
Et je vous propose de revenir maintenant sur ce qui est devenu l'affaire Matzneff. Depuis plus d'une semaine, un livre, Le Consentement, questionne bien au-delà du monde de l'édition et interroge sur des mœurs qui seraient d'une autre époque. Et on verra que cette expression « autre époque » sous-entendrait qu'avoir des relations sexuelles pour des adultes avec des jeunes de 13-14 ans à une autre époque, cela ne questionnait pas. Avec moi en studio, trois journalistes de la rédaction qui ont travaillé sur les différents aspects de ce dossier. Ève Roger, chef du service Société, bonjour.
Bonjour.
Salomé Legrand, du service Police-Justice d'Europe 1, bonjour.
Bonjour.
Et puis Nicolas Caro, monsieur Livre d'Europe 1, bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer, j'ai envie de dire forcément avec vous Nicolas, parce que toute cette affaire, et vous avez le livre entre les mains, toutes ces interrogations, elles sont parties de ce livre, Le Consentement. Déjà, racontez-nous simplement quand vous l'avez reçu, votre réaction.
Bizarrement, déjà, je ne l'ai pas reçu trois semaines avant la publication, comme c'est le cas surtout pendant les rentrées littéraires. Là, on a la rentrée littéraire d'hiver. Normalement, j'ai quasiment toute la collection trois, quatre semaines avant les publications. Et là, non, je ne l'avais pas, celui-là. Et quand je suis rentré de vacances, évidemment, l'affaire avait débuté et j'appelle tout de suite la maison d'édition pour avoir un exemplaire. Et puis ça traîne, on ne me rappelle pas, je laisse un message. Puis deux, puis je tombe sur une assistante. Et puis finalement, en insistant, je l'ai quand même dans l'après-midi, mais ça a été un petit peu compliqué. Et
ça témoignait de quoi ?
Ça témoignait en fait du fait que c'est sorti trop tôt, à mon avis, pour eux, parce que le livre est sorti le jeudi, mais l'affaire a débuté 10 jours avant.
C'est-à-dire qu'en fait, la publication, c'était cette semaine, le 2 janvier, en librairie. Et effectivement, je crois que l'un des premiers articles qui alerte...
C'était le lundi 23 décembre.
C'est ça, 10 jours avant, c'est beaucoup trop tôt, en fait, pour la maison d'édition.
Qu'est-ce que raconte ce livre,
justement ? Si on en parle trop avant, on n'en parlera plus le jour de la sortie. Bon, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est très compliqué parce que c'est pas un roman, même si il y a pas les noms tels quels. C'est V et GM, les deux protagonistes, donc V pour Vanessa Springora, l'auteur, et puis GM pour, bien sûr, Gabrielle Matzneff.
Qui est elle-même éditrice.
Qui est, elle, directrice des éditions Julliard. C'est pas rien, elle est vraiment éditrice, et puis depuis très longtemps dans le milieu de l'édition. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a mis un peu de temps à publier ce livre, parce que donc, elle raconte sa relation, quand elle avait 13 ans, bientôt 14, avec Gabrielle Matzneff, qui, à l'époque, au milieu des années 80, est une vraie gloire littéraire. Aujourd'hui, plus personne ne sait qui est Gabrielle Matzneff. Hein. Entre nous, si on a moins de 30 ans, on ne sait pas du tout qui c'est. Mais à l'époque, c'était vraiment... Il était sur tous les plateaux télé dès qu'il s'agissait de parler de l'actualité ou d'avoir un débat intellectuel. C'était une vraie figure intellectuelle de l'époque.
Et on en parlera dans quelques instants, puisqu'évidemment, ce qui est ressorti, a ressurgi à l'occasion de cette polémique et de ce livre, c'est cette fameuse émission d'Apostrophe, justement, où il est interpellé par Denise Bombardier. On en parlera dans un instant. On imagine l'onde de choc dans le monde feutré d'édition. Alors, on va écouter, Denis Tillinac. Rappelez-nous déjà son lien justement avec Gabriel Matzneff.
Denis Tillinac, il a été longtemps patron des éditions de la Table Ronde, maison d'édition dans laquelle Gabriel Matzneff a été édité en tant que romancier, essayiste et pour ses carnets. Justement, ses carnets où il raconte ses relations avec des jeunes filles et qui dit très clairement et qu'il assume aimer les moins de 16 ans et les moins de 15 ans. Et en fait, quand Denis Tillinac est arrivé, lui, il a refusé non pas d'éditer Gabriel Matzneff, parce qu'il voulait bien ses romans et ses essais, mais en revanche, pas du tout ses carnets intimes.
Et c'est ce qu'il vous a raconté.
J'ai passé l'âge de faire la morale aux gens. Simplement, c'était un auteur de la maison bien avant que je devienne patron de la Table Ronde. Et ça allait rester, simplement, j'ai refusé de publier ses carnets intimes. Parce que, justement, il y a cette espèce de complaisance comme ça, érotico, pédo, truc, me plaisait pas. Je voulais pas être l'éditeur de ça. Je voulais être l'éditeur d'un écrivain qui était surtout un bon essayiste et un romancier. Et donc j'ai publié des romans où j'allais dire où il n'y a que des adultes. Et faut se demander surtout pourquoi on publiait ça avant, sans que ça pose de problème à personne. On est dans un phénomène de société. Il y a comme ça un espèce de puritanisme qui arrive des États-Unis. J'y adhère pas, mais je ne voulais pas publier ça, donc je l'ai pas fait. Mais je l'aime bien, lui. C'est un homme fragile, ambivalent. Il le savait bien. Avec les gosses, ça me plaît pas. Peut-être parce que je suis père de famille et grand-père même.
Bon voilà, on reconnaît le franc-parler de Denis Tillinac. On connaît bien. Il dit qu'il a toujours refusé de publier les journaux intimes de Matzneff. On sent qu'il est quand même embarrassé.
Oui, mais en fait, ça traduit assez bien ce qui se passe avec cette affaire dans le milieu de la littérature. C'est-à-dire que justement, Denis Tillinac, il a plutôt un franc-parler, il est surtout catégorique sur beaucoup de sujets, mais là, c'est un peu compliqué parce que ça reste de la littérature néanmoins, même si c'est pas du roman. Et donc, expliquer qu'un écrivain n'a pas le droit et ne peut pas être édité pour tel ou tel écrit, c'est compliqué. Ça peut être très vite considéré comme de la censure.
Ève Roger, je vous vois...
Oui, c'est intéressant parce que c'est à la fois l'argument qu'on entend là de Nicolas, mais c'est aussi, on peut dire, c'est un alibi. Ce que dit Denise Bombardier, en fait, on fait semblant de dire on peut pas critiquer le fond parce que ça reste de la littérature et la littérature est supérieure à ce qu'on appelle ou la morale ou simplement le droit.
Justement, tous les deux, vous avez sollicité des gens de ce milieu de l'édition. Est-ce que ça a été facile de les faire parler autour de cette polémique ?
Bon non, ça n'a pas été facile. Enfin, je crois que Nicolas a même croisé Bernard Pivot dans la rue, c'est ça ?
Oui, j'ai croisé Bernard Pivot, qui est mon voisin de quartier, en fait. Et je l'ai croisé, donc on a discuté un petit peu. Et puis c'est lui qui commence à me dire « Oh là là, mais tout le monde me saute dessus avec cette affaire. Voilà, il était embêté parce qu'il a essayé de se défendre sur Twitter, mais c'était éventuellement un peu maladroit. Et donc, c'est compliqué en fait. Et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver des gens qui en parlent et qui sont directement concernés. C'est que dès que vous prenez la parole, bah, tout d'un coup, vous faites partie du débat. Et c'est un débat quand même... Voilà, compliqué.
Alors, vous parlez de Bernard Pivot, parce que ce qui a beaucoup marqué aussi dans tous les témoignages qu'on a entendus sur l'antenne cette semaine, c'est une forme de tolérance par rapport aux agissements de Gabriel Masneff. On a minimisé, dit-on, à l'époque, les faits. On a parlé d'une autre époque. Et justement, et on va y arriver, c'était particulièrement marquant dans l'extrait de l'émission d'Apostrophe en 1990, sur laquelle on a beaucoup interpellé Bernard Pivot cette semaine. Là, Bernard Pivot invite ce jour-là l'écrivain pour parler de son dernier livre, Les Amours décomposés. La seule qui va s'insurger à l'époque sur le plateau quand Bernard Pivot parle de l'attirance de Masneff pour les minettes, c'est une écrivain canadienne, Denise Bombardier, pour l'avoir interviewée, je sais qu'elle a elle aussi son franc-parler. Elle l'avait en 1990 et elle a raconté comment s'est passé justement cet échange sur le plateau d'Apostrophe. Elle était l'invitée du 18-20 d'Europe 1.
J'étais la seule qui ait pris la parole et j'étais là pour prendre la parole parce que j'avais lu son livre au complet. Et j'avais prévenu mon éditeur qui m'avait, lui, à son tour prévenu en disant « ça va nuire à ton livre ». Je lui ai dit « je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si je ne dis pas un mot ». Parce que dans ce livre-là, il décrivait en détail comment il sodomisait les petites filles.
Et vous étiez la seule choquée.
J'étais la seule qui en a parlé.
Bernard Pivot dit aujourd'hui, c'est une époque, les années 70 et 80, où la littérature passait avant la morale.
Ouais, mais ça dit quelque chose de la France aussi. D'ailleurs, une des premières choses que j'ai dites, je crois, c'est « j'ai l'impression d'être sur une autre planète, moi ». J'arrive du Canada, et ce que j'entends, j'étais décalée. Mais enfin, j'étais pas étonnée, puisque j'avais lu, et que je savais qu'il y avait une pétition signée par de Beauvoir, par tous vos monstres sacrés du XXe siècle en philosophie, pour en quelque sorte décriminaliser les rapports entre les enfants et les adultes, sous prétexte qu'il fallait jouir sans contrainte.
Voilà, Denise Bombardier qui s'expliquait sur l'antenne d'Europe 1 il y a une semaine dans le 18-20, interrogée par Sébastien Krebs. Ève Roger, elle le dit clairement, elle parle de tolérance à l'époque en France. Comment on l'explique justement ?
Il y a plusieurs choses. Elle le dit aussi, c'est d'abord le poids de la littérature en France. C'est-à-dire que la littérature, l'art, les écrivains, ça pèse très lourd en France. Donc ça, c'est déjà une première chose, un premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est on est dans ce post-68, dans cette période où on était dans des carcans et l'idée, c'était la libération totale. Il était interdit d'interdire, c'était ça, en particulier dans ce milieu-là. Donc interdit d'interdire, ça voulait dire on interdisait les relations sexuelles entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans.
Ce qui c'était déjà dans la loi.
C'était déjà dans la loi à ce moment-là. Mais l'idée, c'était de desserrer cet étau. Pourquoi on interdisait d'avoir des relations sexuelles ?
D'où cette fameuse pétition qui a même, je crois, été signée par Françoise Dolto.
Alors, une pétition qui disait « arrêtons d'interdire de faire l'amour avec des enfants de moins de 15 ans ». Donc aujourd'hui, ça paraît inimaginable. Et encore plus aux gens qui ont aujourd'hui 35 ans. C'est-à-dire que cette idée que c'était possible... À l'époque, vous parlez de Françoise Dolto, on savait que les enfants avaient une sexualité et que cette sexualité s'exprimait par des pulsions. Mais on ne savait pas qu'en fait, ces pulsions, c'était justement à l'adulte de dire non, ce n'est pas possible. La sexualité enfantine se pratique avec d'autres enfants et non pas avec des adultes. Mais tout ça, cette construction sexuelle de l'enfant, on l'a su que beaucoup plus tard. Et même, hélas, Françoise Dolto n'était pas au courant de ça. Enfin, j'ose espérer qu'elle n'était pas au courant.
On marque une pause, Ève Roger, et dans un instant, on va s'interroger sur ce que dit la loi, ce qu'elle disait d'ailleurs à l'époque et pourquoi, malgré des signalements à la Brigade des mineurs, aucune procédure n'avait alors abouti. On verra avec vous, Salomé Legrand, si ce récit de Vanessa Springora peut donner lieu à des poursuites contre Gabriel Masneff, alors qu'on a justement appris hier que le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour viol sur mineur de 15 ans. 13h29, la suite de l'affaire Matzneff dans Tout Terrain avec vous Fabienne Lemoyle et les journalistes d'Europe 1.
Et toujours avec moi en studio Nicolas Caro, monsieur livre d'Europe 1, Ève Roger, chef du service société, et vous Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 pour revenir sur ce qui est donc devenu au fil de la semaine l'affaire Gabriel Matzneff. Une affaire, Salomé, qui a pris une tournure judiciaire hier après la parution de ce livre, Le Consentement, et surtout sa lecture par les juges, Salomé.
Voilà. Le parquet de Paris se l'est procuré, ils ne l'ont pas eu en avance, ils l'ont eu jeudi au moment de la publication. Ils l'ont donc étudié et dès hier, vendredi, donc à peine 24 heures pour le lire, ils ont ouvert une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans.
Parce que la question que se posait, c'était est-ce que effectivement il y avait des faits dans ce livre qui pouvaient tomber sous le coup de la loi ?
Et voilà, et c'est évidemment la question qui se pose toujours malgré l'ouverture de cette enquête, parce que en réalité, comme d'abord le titre du livre le dit, le consentement, c'est vraiment toute la question autour de ces faits. Vanessa Springora a toujours dit que les relations sexuelles qu'elle avait, elles étaient consenties, elles étaient dans le cadre d'une relation amoureuse avec Gabriel Matzneff, mais il y a la question de l'emprise qui se pose et qu'elle décrit aussi dans le livre. Et ce que disent les magistrats du parquet de Paris à la lecture, c'est qu'on peut se questionner sur son consentement réel. Est-ce que ça n'est pas plutôt constitutif de viol ? Parce que la différence d'âge, en l'occurrence plus de 35 ans entre Vanessa Springora et Gabriel Matzneff, pourrait rentrer dans la définition de la contrainte, qui est l'un des éléments constitutifs du viol en droit français. C'est une relation sexuelle non consentie par violence, menace, contrainte ou surprise. Dans la contrainte, on pourrait mettre l'emprise et la différence d'âge.
Parce bon, que Roger. Non, je me demandais s'il n'y avait pas prescription. Alors, sur le viol.
Eh ben, c'est justement toute la
parce
la
que
question.
Tout le monde s'est interrogé avec l'ouverture de cette enquête.
Et tout le monde s'interroge encore.
Les faits sont prescrits, donc à quoi bon ouvrir une enquête ? Pour se donner bonne conscience ?
Alors non, pour savoir. Parce qu'il faut en avoir le cœur net. Ouvrir une enquête, ça permet de pouvoir clarifier exactement les faits, entendre tout le monde, dater ces faits, et ensuite, effectivement, se poser la question de l'agression sexuelle ou du viol, de l'atteinte sexuelle sur mineur ou d'autres qualifications. Ça concerne évidemment Vanessa Springora, et là, il est fort possible qu'on aboutisse à un classement sans suite du fait de la prescription, parce que la prescription en matière de viol, elle a changé très récemment, et la loi n'est pas rétroactive, c'est maintenant 30 ans à partir de la majorité de la victime. Ça veut dire qu'on peut porter plainte jusqu'à ses 48 ans.
Et elle en a 47.
Et elle en a 47, sauf que quand la loi a été faite en 2018, les faits étaient déjà prescrits. Donc tout ça, c'est des notions qui sont extrêmement précises et c'est aux magistrats maintenant de s'en emparer. En revanche, ce que se disent aussi les magistrats du parquet de Paris, c'est que ça n'est pas la seule victime potentielle de Gabriel Matzneff. Il y a tous ses écrits, le 15e volume de ses journaux intimes, il est paru en novembre 2019. Il fait état aussi de relations avec des jeunes femmes dont l'âge n'est pas précisé, en tout cas dont je n'ai pas connaissance, mais c'est une des questions qui se posent. L'autre question qui se pose, parce que l'enquête, elle est même ouverte à des faits possiblement à l'étranger, à l'international, parce que Gabriel Matzneff a raconté aussi des relations sexuelles avec des tout jeunes hommes prostitués aux Philippines. Donc, le parquet de Paris ouvre une enquête avec un chef d'accusation, entre guillemets, un chef d'enquête assez large pour essayer d'y voir plus clair.
D'ailleurs, dans le livre, elle raconte comment elle rencontre Nicolas aussi Caro. D'autres victimes de Matzneff. Une fois qu'elle a rompu avec lui, elle rencontre une autre de ses victimes.
Et elle dit là, ces derniers temps, dans les quelques rares interviews qu'elle accorde, qu'elle a reçu des témoignages d'autres jeunes femmes. Donc il n'est pas exclu que d'autres victimes plus récentes et dont les faits ne seraient pas prescrits se manifestent.
C'est aussi pour ça qu'elle a attendu si longtemps, parce que c'était le silence des autres. Et donc elle ne voulait pas forcément y aller en première. Mais maintenant qu'elle l'a fait, peut-être que les autres qui se disaient peut-être la même chose qu'elle vont
parler. Et là on revoit aussi un phénomène qu'on a connu avec l'affaire MeToo, avec l'affaire Weinstein, avec une parole effectivement qui se libère.
Oui.
Une autre question, est-ce que ces livres peuvent être interdits, Salomé Legrand ? Là je parle juridiquement parlant.
Alors non, pénalement en tout cas, parce qu'en matière de livres, c'est une loi de 1881 sur la presse qui s'applique. C'est des délais de prescription extrêmement courts, de 3 mois en général. Donc la seule possibilité pour faire interdire ces livres, ce serait qu'il y ait une réédition, une republication, comme me l'explique Maître Éric Morin, avocat.
Si ces œuvres devaient être republiées, elles referaient courir à ce moment-là un délai de prescription, ce qui permettrait à soit à des associations, soit à des personnes directement visées de pouvoir agir en justice pour soit les faire interdire, soit faire reconnaître qu'elles contiennent des passages offensants, soit des atteintes à la vie privée, soit des apologies de crimes ou de délits qu'il conviendrait de supprimer.
Voilà donc pour ces propos d'Éric Morin.
Et donc la seule possibilité qui reste, c'est éventuellement une interdiction administrative. Ce serait un arrêté du ministère de l'Intérieur qui permet pas d'interdire totalement un livre, mais juste d'en limiter la diffusion, par exemple, aux mineurs ou d'en faire de la publicité, de le mettre en vitrine dans les librairies, par exemple.
Nicolas Caro.
Non, mais juste dans la préface de Moins de 16 ans, lors de la réédition en 2005, Matzneff se plaint déjà de ceux qui critiquent ses écrits et ses mœurs. Et à un moment, il cite toute la liste de ses amoureuses, comme il dit, et il y a notamment une certaine Vanessa, 14 ans.
Mais d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de la question d'une autre époque, etc. Mais moi, j'aimerais quand même rappeler qu'il s'est vu décerner le prix Renaudot Essai en 2013. Donc ce monde de l'édition qui aujourd'hui dit c'était une autre époque, une partie, on ne va pas l'accabler dans son intégralité, mais certains en tout cas ont attribué ce prix et je crois ont répondu au Monde en disant que oui, bah, c'était un écrivain un peu dans le besoin et que voilà, ils ont récompensé son œuvre.
Alors justement, écrivain dans le besoin, Ève Roger, là vous avez enquêté justement sur les aides, oui, je crois, du Centre National du Livre, c'est ça
le Centre National du Livre donne des aides à des vieux écrivains qui sont dans le besoin parce que à cause de leur grand âge ou à cause de la maladie, et ce qui est le cas pour Gabriel Matzneff, depuis ses 65 ans, en fait, il touche une allocation annuelle par le Centre National du Livre, une allocation qui est à la discrétion totale du président du Centre. Et hier, nous avons appris que le président du Centre National du Livre, qui s'appelle Vincent Monadet, allait proposer au ministre de la Culture, Franck Riester, de supprimer cette allocation. Alors cette allocation, c'est quand même un montant assez important, puisque c'est 65 ans, donc il touchait 12 000 euros par an d'aide, parce qu'il était vraiment dans le besoin, enfin sur le papier en tout cas.
Et parce que vous avez aussi enquêté sur son train de vie, justement son journal intime montre qu'il voyage beaucoup.
Voilà, qu'il a un train de vie assez... Alors il peut avoir beaucoup d'amis, on sait que Gabriel Matzneff a beaucoup d'amis, il a dû se faire beaucoup inviter, mais enfin il faut quand même voyager. Et dans le même temps, il a un passe Navigo gratuit, dans le même temps il habite dans un logement social de la ville de Paris depuis 25 ans. Donc en fait c'est un homme qui vit dans une sans doute certaine opacité à la fois intime et matériel.
Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette affaire, déjà, a nourri, effectivement, on le comprend bien, vous ayant tous les trois autour de cette table dans le studio, beaucoup d'interrogations et de questionnements, j'imagine, dans les comptes de rédaction ces dernières semaines, avec ces différents aspects. Et puis, évidemment, des questionnements juridiques avec le droit qui existait déjà à l'époque et qui n'est pas passé, parce qu'on va rappeler quand même,
Salomé,
qu'il y a eu des signalements auprès de la Brigade des mineurs. Gabriel Matzneff le dit lui-même.
Il le raconte.
C'est dans le livre, dans le consentement aussi.
Voilà, et on va
terminer. Donc il s'excusait, il raconte que la brigade des mineurs s'excusait de le déranger. Oui. Donc il l'a vu, je crois, 4 ou 5
fois. 2-3 fois, il sort et puis en fait il dit qu'ils se sont excusés effectivement de l'avoir dérangé, de lui avoir posé des questions.
On peut se demander en tout cas ce que Gabriel Matzneff a compris de cette affaire et s'il en prend vraiment la mesure, puisqu'il a répondu au livre de Vanessa Springora dans une lettre publiée sur le site du journal L'Express jeudi soir, où il dit qu'en gros, elle tente de faire de moi un pervers, un manipulateur, un prédateur, un salaud. Il en profite d'ailleurs, entre guillemets, pour publier la lettre de rupture de cette jeune fille à l'époque, comme preuve de son consentement,
sans avoir
visiblement
pris
prendre la mesure
de l'emprise
qu'il avait sur
de la façon dont elle l'a vécu. Oui.
Enfin, l'idée, c'est plutôt qu'il continue à essayer d'avoir une emprise sur elle, en publiant ses lettres et tout ça. Il continue à dire, c'est moi le maître dans cette relation, maître soumission. En fait, ça s'appelle tout simplement, ça s'appelle le déni.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous, en tout cas ce midi, pour revenir sur cette affaire qui suscite, on l'a vu, beaucoup d'interrogations.
Merci.
Merci.
Europe 1.
À suivre, le Dakar s'élance depuis Jeddah en Arabie Saoudite demain et vous allez l'entendre, cela pose beaucoup de questions. On en parle avec Axel May.
13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
13h40 et jusqu'à 14h, vous écoutez Fabienne Lemoyle, c'est tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1.
C'est donc demain que va être donné le départ du Dakar 2020 à Jeddah en Arabie Saoudite, une édition de 7800 km à travers le désert saoudien qui est particulièrement controversée.
Nous assistons en effet à une très large propagande des autorités saoudiennes pour construire une image avec ces événements sportifs d'un pays moderne qui accueille des grandes manifestations et ainsi cacher l'image désastreuse qu'ils ont d'être une dictature responsable des violations parmi les plus graves aujourd'hui.
Bonjour Axel May.
Bonjour.
Et c'est donc vous qui avez assisté à cette conférence de presse hier matin. On vient d'entendre l'un des représentants de la Fédération des droits de l'homme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le choix de l'Arabie Saoudite suscite beaucoup de réactions. On va y revenir dans un instant. Mais déjà, pourquoi ce choix cette année, sachant que ça fait déjà bien longtemps que ce qui s'appelait le Paris-Dakar à l'origine ne se déroule plus en Afrique.
Ouais, après 30 ans en Afrique, hein, qui ont pris fin à ces 30 ans face à la menace terroriste, après une grosse décennie en Amérique du Sud où c'était devenu de plus en plus compliqué en raison notamment de la crise économique, voici que les organisateurs ont décidé de poser leurs valises et leurs 4x4 en Arabie Saoudite, vantant l'immensité désertique du pays, empochant au passage un gros chèque et l'assurance pendant les 5 prochaines années d'organiser le célèbre rallye raid dans la péninsule arabique, qui a même gardé, hein, si ça n'arrive plus au Sénégal, son nom, le Dakar, hein, une marque déposée.
Alors, c'est quoi l'ambition finalement de l'Arabie Saoudite? Parce que on a aussi parlé de l'organisation, je crois que c'est la semaine prochaine, de la Supercoupe d'Espagne.
Bah, clairement, comme l'a fait avant elle son grand rival et voisin, le Qatar, l'Arabie Saoudite utilise le sport comme arme géopolitique, ce que certains appellent le sport washing, le sport pour faire oublier les dérives, les abus, l'autoritarisme du régime saoudien, ce que d'autres appellent le soft power, la stratégie d'influence par le sport. Il y a donc le Dakar, 42e du nom. Avant lui, il y a eu des courses de Formule électrique à Riyad. Tout récemment, un championnat du monde de boxe avec l'une des stars de la discipline, le Britannique Anthony Joshua. Le foot s'invite aussi. Vous citiez la Supercoupe d'Espagne qui aura lieu la semaine prochaine. Juste avant Noël, c'est la finale de la Supercoupe d'Italie qui avait été délocalisée à Riyad.
Tout cela, en fait, s'inscrit plus généralement dans le plan Vision 2030 mené par le prince héritier, celui qu'on surnomme MBS.
Mohamed Ben Salman, un plan pour sortir de la dépendance pétrolière en diversifiant l'économie, en modernisant le pays et intégrer le sport comme composante essentielle de la société, l'une des ambitieuses missions de ce plan Vision 2030, expliqué en novembre dernier lors de la présentation du parcours du Dakar 2020, le représentant de MBS qui était à Paris, ce représentant.
Alors cette conférence de presse s'est tenue à l'Institut du Monde Arabe.
Oui, le musée parisien accueille une importante exposition consacrée au site archéologique d'Alula, présenté comme la merveille d'Arabie ce site, et je propose d'écouter la réaction de l'ancien ministre Jack Lang, qui est l'actuel président de l'Institut du Monde Arabe où se tenait donc cette conférence de presse.
La venue du Dakar va contribuer à faire avancer un peu plus les droits des femmes, les droits des citoyens. Quand j'allais à Riyad il y a 2 ans, les femmes étaient couvertes. Aujourd'hui, à Riyad, vous le verrez vous-même, à Riyad ou à Jeddah, les femmes ont la liberté totale de découvrir leurs cheveux. Ce que peut-être on ne croira pas ici. Je ne dis pas que c'est idyllique. Ma conviction, c'est que si on soutient les citoyens, il s'agit de ça, soutenir les citoyens, soutenir les sportifs, soutenir les femmes, soutenir les artistes, les créateurs, on fait bouger les choses.
Voilà pour les propos de Jack Lang. On l'a bien compris, pas du tout partagé par les associations de défense des droits de l'homme qui tenaient donc vendredi matin, donc hier, cette conférence de presse. Et là, vous avez assisté à une véritable levée de bouclier contre ce Dakar en Arabie Saoudite.
Alors, disons que les associations rappellent que le régime saoudien est accusé d'avoir fait assassiner le journaliste dissident Jamal Khashoggi, de mener une guerre au Yémen, d'écraser les dissidents en Arabie, d'emprisonner des militantes de la condition féminine. Yahya Assiri représente une association saoudienne de défense des droits humains.
Ils annoncent des réformes et proposent de grands événements pour étouffer les violations des droits de l'homme. Mais elles sont toutes en augmentation. Les tortures, les exécutions augmentent, les crimes continuent au Yémen. La situation est malheureusement de pire en pire.
On entend une condamnation très ferme. Pourtant, des associations comme Human Rights Watch ou comme la FIDH, la Fédération Internationale pour les Droits Humains, n'appellent pas au boycott du Dakar.
Non, ces associations qui avaient convié l'Association Saoudienne de Défense des Droits Humains que vous venez d'entendre, demandent que les organisateurs, que les concurrents, que la communauté du Dakar au sens large portent des brassards en soutien aux défenseurs des droits de l'homme qui sont emprisonnés en Arabie. Antoine Madelin est responsable plaidoyer à la FIDH et il dénonce le silence de France Télévisions, diffuseur du rallye, et d'ASO, Amaury Sport Organisation, qui organise le Dakar.
Nous assistons en effet à une très large propagande des autorités saoudiennes pour construire une image avec ces événements sportifs d'un pays moderne qui accueille des grandes manifestations et ainsi cacher l'image désastreuse qu'ils ont d'être une dictature responsable des violations parmi les plus graves aujourd'hui. Et nous sommes en effet stupéfaits de voir que des groupes publics comme France Télévisions ou privés comme le groupe Amaury restent silencieux sur ces situations-là. Nous les appelons donc en effet à être beaucoup plus vocaux sur la situation des droits humains en Arabie Saoudite.
Plus vocaux, autrement dit se faire entendre davantage, ce qu'explique donc ce responsable de la FIDH, la Fédération Internationale pour les Droits Humains. Alors, lors de la présentation du parcours du Dakar en novembre à l'Institut du Monde Arabe, j'avais demandé au patron des sports de France Télévisions une réaction et il n'a pas souhaité à l'époque s'exprimer. Alors, peut-être un peu gêné parce qu'au même moment, on apprenait que la télévision publique espagnole ne souhaitait pas diffuser la Supercoupe d'Espagne de football dont on parlait tout à l'heure et qui aura lieu la semaine prochaine.
Et que répond l'organisation du Dakar à ces critiques ?
Alors, un choix assumé à 100%. David Castera est le directeur du Dakar.
Totalement assumé, c'est un choix totalement sportif. Comme je vous disais, ce désert se prête à l'ADN absolu du Dakar. La découverte, les grands espaces, les dunes, le sable... C'est tout ça qu'on est venu chercher en Arabie Saoudite, mais au Moyen-Orient, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on a déjà des contacts avancés avec la Jordanie, l'Oman, les Émirats Arabes Unis, pour que le Dakar aussi puisse visiter ces autres pays. Et le Dakar s'affiche dans la lignée de bien d'autres événements sportifs qui ont déjà eu lieu en Arabie Saoudite, comme la Formule I, comme des matchs de tennis, des matchs de foot, etc. Et va dans cette continuité. L'Arabie Saoudite a une volonté d'ouverture. Ils ont un projet qui s'appelle donc Vision 2030, avec une ouverture totale du pays au tourisme.
Et à cela, que répondent les sportifs ? Est-ce que ce choix de l'Arabie Saoudite leur va ?
Ben, en tout cas, les principaux concurrents sont là. Stéphane Peter Hansel, qu'on surnomme Monsieur Dakar, 13 fois vainqueur, est au départ. Il y a aussi Fernando Alonso, l'ancien champion du monde de Formule 1, qui va découvrir le Dakar cette année. Alors, j'ai aussi interviewé Jutta Kleinschmidt, ancienne pilote, seule femme à avoir remporté le Dakar en auto. C'était en 2001 et je lui ai demandé, ça vous fait quoi ce Dakar en Arabie Saoudite, un pays où les femmes sont officiellement autorisées à conduire depuis un an et demi seulement.
Absolument. Cela ne fait pas longtemps que les femmes sont autorisées à conduire. Je pense que c'est pour cela que le Dakar est très important. Pour montrer que les femmes peuvent faire la même chose que les hommes. Et on espère pouvoir soutenir toutes les femmes dans le pays et lutter davantage pour leurs droits.
Jutta Kleinschmidt, ancienne vainqueur du Dakar, a signalé toutefois le petit exploit, Fabienne, diplomatique, permis par le Dakar. Le vainqueur sortant en catégorie auto, Nasser Al Attiyah, est du Qatar, pays rival, voire ennemi de l'Arabie, et il est au départ. Quant à ASO, qui est également organisateur du Tour de France, eh bien ASO va aussi en février prochain organiser le premier tour cycliste d'Arabie Saoudite.
Merci beaucoup Axel May.
Merci.
Il est 13h48, place à la dernière partie de Tout Terrain avec vous Fabienne Lemoelle.
Et pour terminer Tout Terrain, je vous emmène à Toulon qui met à l'honneur Picasso.
C'est magnifique, c'est bien. Et puis, j'aurais vraiment regretté que Picasso vienne à Toulon et que Toulon n'aille pas à Picasso. C'est la lumière, j'aime particulièrement le grand de Cannes, là où, enfin, c'est magnifique, les mouvements de la mer, on voit tout, on voit l'île, c'est superbe.
Ce qui me plaît, c'est de voir beaucoup de paysages de la région, de Cassis, et les environs de Marseille, l'Estac, ça me parle.
Effectivement, là, il y a un petit tableau sur Cassis qui est très très beau, là, qui rappelle le midi, la beauté du midi.
Bonjour Diane Chenouda.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Ça y est, déjà avec ce public enthousiaste, on est transporté dans les lumières du Sud et ça fait du bien plein hiver. C'est vous qui allez nous servir de guide dans ce musée d'art de Toulon qui nous offre donc cette exposition qui s'appelle...
Picasso et le paysage méditerranéen.
Alors, ce musée d'art de Toulon, il vient tout juste de rouvrir ses portes après une grande rénovation. Qu'est-ce qu'on y voit généralement dans ce musée, en fait ? C'est quoi ce musée ?
C'est un très beau musée d'art, hein, de la ville de Toulon au centre-ville. On y voit des peintures, vraiment sur des paysages méditerranéens, justement, absolument magnifiques. Des peintures, des dessins, des sculptures, des photos. Et c'est un très beau bâtiment de la fin du 19e. Alors, qui a été en effet en partie rénové, donc il est beaucoup plus lumineux. Et il va l'être encore, c'est-à-dire que le musée va refermer fin février pour les derniers travaux de rénovation.
Alors, donc, il faut en profiter de cette réouverture temporaire. On l'a bien compris. C'est donc Picasso qui a été mis à l'honneur avec ses paysages parce qu'il y a une vraie histoire, il faut le dire, entre le peintre et le sud de la France.
Ah oui, oui, oui. Une grande histoire d'amour même, j'ai envie de dire. Picasso va vivre une grande partie de sa vie, la deuxième partie de sa vie dans ce midi de la France qu'il adore. Il aime la mer. Il vient quand même de Malaga en Espagne. hein, évidemment.
L'Andalousie donc, aussi de l'Espagne,
oui,
bien sûr.
Oui, donc il va vivre à Valoris, mais surtout à Cannes et à Mougins. C'est là qu'il meurt. Et dès 1920, eh bien, il va passer ses étés hein, sur cette côte d'Azur qu'il aime beaucoup, avec femme et enfants, comme le confirme Brigitte Gaillard, la directrice du musée d'art de Toulon.
Tous les étés, il va louer une maison différente à Juan-les-Pins, à Antibes et à Cannes, pour pouvoir y passer un mois ou deux mois d'été avec ses différentes compagnes ou avec ses enfants. Il aime la chaleur du midi, la lumière, les couleurs, tous ces aspects qui lui rappellent son Espagne natale qu'il a laissée derrière lui.
Et donc cet amour de la Côte d'Azur, cette lumière, on va la retrouver bien sûr dans les toiles qui sont exposées dans ce musée d'art de Toulon.
Oui Fabienne, avec une Provence d'abord cubiste, hein, il est très influencé par Braque. Et puis il y a ces vues très stylisées, très picassiennes de la baie de Cannes et de Juan-les-Pins, là en 1920.
Ce paysage est intéressant parce que peu de temps avant, Picasso a travaillé pour les décors des ballets russes. Et ici, on est en présence d'un véritable décor de scène de théâtre, où là, l'artiste a réalisé cette œuvre en atelier, bien évidemment, et reproduit tous les éléments de la nature, juxtaposés les uns à côté des autres, en utilisant des formes à la fois géométriques, des formes plus rondes. Il ose vraiment les couleurs, il met des verts très, très vifs avec un rouge puissant, des blancs aussi très, très lumineux. Le blanc, c'est synonyme de lumière et de soleil. Et puis après, bon, bah, il transpose sa propre vision du paysage méditerranéen sur sa toile.
Et alors l'une des toiles phares, vous m'avez dit, c'est la baie de Cannes, et forcément parce que...
Oui, c'est une des cartes postales de la Côte d'Azur, oui. Évidemment. Et ça a été peint en 1958, c'est la vue qu'il avait de son atelier dans sa très belle et très grande maison qui s'appelait la Californie, hein, qui est très connue, la Californie sur les hauteurs de Cannes.
La baie de Cannes, nous l'avons choisie parce qu'elle est représentative de tout ce que Picasso va aimer dans cette Méditerranée française, si vous voulez. On retrouve la mer, on retrouve les îles de Lérins au fond, on retrouve l'animation avec ses bateaux, ses palmiers, et puis c'est la baie de Cannes, c'est quand même la Côte d'Azur, l'emblème de la Côte d'Azur. Et surtout, Picasso se retrouve ici dans son atelier de la Californie, au premier étage de l'atelier, et depuis sa fenêtre, il a cette vue merveilleuse et il va multiplier les dessins, les petites peintures ou les peintures de grand format sur cette baie des Cannes représentant essentiellement la mer parfois et le bleu du ciel. Et puis là, il a une petite nostalgie puisqu'il va rajouter dans cette toile de part et d'autre, encadrant justement ce paysage naturel et presque sauvage, et bien les immeubles et les hôtels particuliers qui commencent à voir le jour et à se dresser pour finalement petit à petit anéantir cette belle vue qu'il avait depuis l'atelier de la Californie.
Oui, parce que c'est ça qui est étonnant dans la toile. Hein. Oui. On l'a mis sur Twitter, c'est qu'effectivement on aperçoit des immeubles contemporains.
Oui.
Hein,
ah ben
c'est
oui.
Pas du tout une image idyllique d'une Côte d'Azur.
Non, pourtant ça n'était pas en 58, mais effectivement ça commence à grignoter le paysage.
L'urbanisation est déjà là.
Absolument.
On voit aussi dans cette exposition, évidemment, des paysages de l'adolescence,
oui.
De son Espagne natale, jusqu'au dernier paysage qu'il a eu sous les yeux sur la Côte d'Azur.
Mais absolument, Fabienne. D'abord, effectivement, cette Espagne natale qui ouvre un peu l'exposition, que l'on retrouve dans ses premières études hein, de paysages de tout petit format. On découvre ici vraiment les montagnes, les environs de Malaga. Là, on n'est pas du tout dans le Picasso picassien. Hein, on est dans une peinture très figurative, c'est très 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 beau. Il y a aussi une vue du port de Barcelone qui est quasi impressionniste. Et puis en effet, on a aussi ici l'un des derniers paysages de Picasso, peint un an avant sa mort. C'est une vue presque abstraite de Mougins.
Alors on l'a bien compris, c'est Picasso qui est à l'honneur, mais ce sud, cette lumière, elle a inspiré bien d'autres peintres.
Ah oui, énormément. Il y a Braque, Dufy de Rhin, Juan Gris, qui sont en effet dans l'exposition également, avec des paysages merveilleux. Tous ces peintres ont été également, eux aussi, hein, attirés par la beauté du midi, la beauté de ces paysages, cette terre ocre de Provence, cette lumière, surtout les couleurs aussi de ce sud en plein soleil. Et ils seront donc nombreux à venir s'installer, séjourner dans ce midi sur la Côte d'Azur, mais aussi près de Collioure, près de Céret et également à l'Estac près de Marseille, qui est quand même le village de naissance du cubisme à Marseille. Alors, on a ici d'ailleurs un très beau Juan Gris qui était espagnol comme Picasso, et il faut le savoir quand même, c'est un des plus grands peintres cubistes.
Comme d'autres artistes, il est venu, il a fait le voyage dans le Midi, il a même séjourné dans le Midi, et cette œuvre représente la mer à Bandol, et l'œuvre est datée de 1920. C'est une fenêtre ouverte sur la Méditerranée à Bandol. Et au premier plan, on retrouve bien sûr la thématique des cubistes, à la fois des instruments de musique, une nature morte, des partitions, une table renversée, le battant de la fenêtre ouverte.
Puis on a ce petit bijou de Derain, c'est un très 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 grand peintre Derain, qui a réalisé cette petite toile, si près à Cassis, et qui n'est petite évidemment que par la taille.
Dans ce paysage qui représente un paysage de Cassis, eh bien, Derain va s'intéresser bien sûr à l'élément spécifique de la forêt dans le sud, c'est-à-dire le cyprès et le pin, que ce soit le pin parasol ou le pin maritime. Ce sont les arbres les plus courants que l'on retrouve autour de la Méditerranée ou dans l'arrière-pays niçois ou aixois. Et là, Derain, dans un tout petit format, va donner une très belle lumière en utilisant ses couleurs orangées, ses couleurs brunes, ses couleurs ocre jaune que l'on va retrouver dans beaucoup de paysages réalisés dans le sud de la France et surtout ces paysages fauves.
Bandol, Cassis, Juan-les-Pins, on est vraiment plongé effectivement dans ce sud de la France avec cette exposition, on le rappelle, qui s'appelle, puisqu'elle met quand même à l'honneur au départ Picasso.
Et le paysage méditerranéen,
c'est
absolument.
Donc au musée d'art de Toulon jusqu'au
23 février. Et c'est une exposition Europe 1. Et c'est un vrai voyage sur la Côte d'Azur, voilà.
Merci beaucoup Diane de nous avoir fait...
Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on arrive en train. Moi j'ai pris des tas de photos de ces paysages derrière les cyprès, la mer, vous voyez, quand on vient en train. Et on retrouve ces paysages réellement tels qu'ils existent actuellement dans ces peintures.
Oui, parce qu'effectivement, le train de Marseille à Toulon longe effectivement tous ces paysages dont vous parlez, effectivement, en particulier effectivement Cassis ou encore Bandol. Merci beaucoup Diane Chenouda.
Avec plaisir Fabienne.
Europe 1.
Et voilà, Tout Terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Nicolas Feldman en direct de Beyrouth, Salomé Legrand, Ève Roger, Nicolas Caro, Aurélien Fleureau, Axel May, à l'instant Diane Chenouda. Un grand merci aussi à Jérémy Hébert et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout Terrain en podcast sur europe1.fr. Une nouvelle fois, meilleurs vœux à vous, de toute l'équipe de Tout Terrain.
Merci.
Et Marlène Sias aussi, bien évidemment. Bien sûr. Ma partenaire fidèle tous les week-ends. Demain à 13h, vous ouvrirez des carnets du monde avec Sophie Larmoyer.
Et c'était Fabienne Lemoyle, tout à l'heure, 18h, aux côtés de Wendy Bouchard, bien sûr. Dans un instant, on va retrouver Christophe Ondelat avec un nouveau récit. Allez, dites-nous tout, Christophe.
Bonjour Marlène.
Bonjour.
Aujourd'hui, je vais vous raconter une évasion célèbre. L'évasion de 3 détenus de l'abbaye de Fontevraud, dans le Maine-et-Loire, en 1955.
Ah, on de la traconte, c'est juste après les infos de 14h.